bons yeux, tu sais.
Merci Jacques pour le scénario de Quai des Brumes. Et maintenant,
embrassez-moi.
La parole est au lycéen de Prévert.
Jacques Addy, la radio du lycée Prévert.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur la radio du lycée Jacques Prévert de Pont-Audemer. Vous pouvez nous écouter sur le canal 96.2 FM et aux alentours de Pont-Audemer à 20 km. Vous pouvez également nous retrouver en podcast sur toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Deezer ou encore sur le site jacquesaddy.org. Je suis ravie aujourd'hui de vous avoir pour l'émission Éclat d'âme qui traite de la santé mentale, de l'inclusion et du handicap chez les ados et les jeunes adultes.
Éclat d'âme. Le magazine des handicaps, de l'inclusion et de la santé mentale.
Aujourd'hui, nous allons parler d'une maladie mentale qui touche énormément de personnes, à savoir la dépression. J'ai la joie aujourd'hui d'être accompagnée de Monsieur Dupont et Madame Bayot, qui sont psychologues au CMP de Pont-Audemer. Et en tout premier, nous allons commencer par une chronique sur des chiffres. Selon Santé publique France, une personne sur cinq ferait une dépression au cours de sa vie. Ce sont 9000 décès annuels par suicide. Entre septembre et novembre 2020, les états dépressifs de la population française ont bondi de 11% à 21%. En 2021, ce sont 12,5% des 18-25 ans qui auraient vécu un épisode dépressif caractérisé au cours des 12 derniers mois. Si cette augmentation concerne tous les segments de la population analysée, la progression la plus importante touche les plus jeunes. Chez les 18-25 ans, 21% des personnes interrogées disent avoir vécu des symptômes anxio-dépressifs sévères ou avoir eu des pensées suicidaires. D'autres sources concordent vers ce constat alarmant. Les urgences hospitalières du réseau Au Secours, l'association SOS Médecins et les données de l'enquête Escapade réalisée pendant la journée d'appel et de préparation à la défense montrent que la santé mentale des Français subit une dégradation constante depuis septembre 2020. Ces troubles prennent, en particulier chez les plus jeunes, des formes variées que des troubles de l'humeur, c'est-à-dire des épisodes dépressifs, ou des troubles anxieux avec des idées suicidaires qui nécessitent de plus en plus souvent des hospitalisations d'urgence. Enfin, voici encore quelques chiffres qui nous obligent à prendre conscience de l'urgence de la situation. Toujours selon les données de surveillance de Au Secours et SOS Médecins, en 2022, 35% des 18-25 ans avaient l'impression de ne pas prendre soin de leur santé mentale ou de leur bien-être. Parmi ces jeunes, 32% déclarent ne pas savoir comment faire, 29 indiquent ne pas avoir le temps et 25 ne s'en sentent pas capables. Maintenant, nous allons passer à un échange avec les deux personnes qui m'accompagnent. Alors, en premier, je voudrais que vous êtes psychologue et vous êtes du coup aussi au CMP. Est-ce qu'il y a un fonctionnement du CMP comparé à un psychologue privé ?
Bonjour. Oui, tout à fait. Le fonctionnement du CMP. Alors, la particularité par rapport au libéral, c'est qu'on fonctionne en équipe. Donc, c'est une équipe pluridisciplinaire. Donc, nous sommes plusieurs psychologues, mais nous sommes aussi accompagnés d'une journée de temps médical. Il y a des infirmières, éducatrices, une secrétaire, une psychomotricienne. Nous n'avons plus d'orthophoniste. Une assistante sociale qui est là aussi une fois tous les 15 jours pour accompagner aussi certaines démarches. Donc c'est principalement la différence avec du libéral, c'est que c'est un fonctionnement d'équipe avec une prise en charge pluridisciplinaire associée aussi quand même au centre hospitalier de Navarre, puisque nous sommes une antenne du centre hospitalier de Navarre. Et nous travaillons sous couvert aussi d'un appui médical. Pour les grandes différences, ensuite en tant que psychologue, le travail du psychologue dans sa prise en charge, il y a forcément des similitudes avec la prise en charge libérale, mais nous sommes inscrits dans un fonctionnement et dans une prise en charge pluridisciplinaire.
Très bien, vous êtes du coup psychologue comme je l'ai annoncé. Est-ce qu'il y a une différence parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent encore psychologue et psychiatrie? Est-ce que justement il y a une différence entre ces deux métiers?
Alors, donc là nous on travaille via le CMP en psychiatrie.
donc, parce qu'on est rattaché à l'hôpital de Navarre. La différence qu'il y a, c'est entre les psychologues et les psychiatres. Donc, le psychologue n'est pas un médecin, à la différence du psychiatre. Le psychiatre peut délivrer des traitements. Voilà, le psychologue, lui, va plus être dans la prise en charge de manière plus rapprochée, plus hebdomadaire. Voilà, c'est ça la grosse différence. Et en tout cas, on n'est pas fou quand on vient voir un psychologue.
C'est vrai qu'il y a énormément de stigmatisation sur le fait qu'on va voir un psy ou un psychiatre. Qu'est-ce que vous avez à répondre à ça ?
Ça s'est beaucoup démocratisé quand même. Là, de plus en plus, il y a beaucoup plus d'accès aux soins. Disons qu'aujourd'hui, les psychologues, on est là pour accueillir toute détresse psychique, tout moment où on aurait besoin d'être accompagné dans son existence. Et ben ça arrive à tout le monde. Voilà, il peut y avoir toutes sortes d'événements de vie qui vont nous amener à avoir besoin d'avoir recours à un psychologue. Le gros intérêt du psychologue est d'être face à quelqu'un de neutre, qui ne nous juge pas, qui n'est pas un parent, qu'on n'a pas peur d'inquiéter, qu'on n'a pas peur à qui on n'a pas peur de dire certaines choses qu'on ne dirait pas à d'autres. Donc, disons que on offre un lieu de confiance.
Très bien. Alors, nous avions un micro-trottoir que nous ne pouvons pas diffuser, mais j'ai été à la rencontre des jeunes lycéens de Prévert en posant des questions telles que est-ce que vous savez ce que c'est que la dépression ? Est-ce que vous avez déjà vécu des symptômes ou des formes d'épisodes dépressifs ? Et beaucoup sont revenus à la positive, que oui, ils ont déjà vécu très très jeunes leurs épisodes dépressifs. Et on a par contre une demande qui est assez souvent, c'est que les élèves n'arrivent pas forcément à décrire bien la dépression avec des mots, c'est plus avec des sentiments. Est-ce que vous auriez des mots un peu plus médicaux sur la dépression ?
Alors, oui, c'est vrai que c'est pas forcément évident de bien différencier. Alors, l'HAS, qui est la Haute Autorité de Santé, a une définition voilà, assez claire, assez précise de ce qu'est la dépression. Ce qu'il est compliqué de différencier, c'est à quel moment on entre dans quelque chose de pathologique, de lourd, de difficile. Et à quel moment on est dans quelque chose de plus proche de la déprime ou d'éléments dépressifs qui sont constitutifs aussi de la vie et de la construction, notamment à l'adolescence. L'HAS peut reconnaître que la dépression, enfin les éléments dépressifs et la déprime fait partie de périodes de vie, notamment l'adolescence, et de la construction dans l'adolescence face à des événements de vie qui sont des événements parfois difficiles, comme la perte d'un proche, comme des événements familiaux, mais aussi voilà, les relations amicales, et puis la transformation aussi du corps, de la vie, des événements de vie qui se présentent, puisque l'adolescence, il y a quand même beaucoup de changements, beaucoup d'évolutions. Et face à ça, les éléments dépressifs peuvent être constitutifs de ces périodes et être, j'ai envie de dire, dans la norme de ce qu'on peut vivre et de ce qu'on peut traverser. Alors après, l'ampleur des symptômes, la durée des symptômes et la répercussion ou les handicaps au quotidien que cela peut provoquer, c'est sur ces éléments qu'on fera la différence et qu'on estimera qu'il y a un épisode dépressif caractérisé ou pas. Donc ça, effectivement, on peut l'évaluer auprès de personnel de santé. Mais oui, il y a des grandes lignes quand même autour du sentiment de tristesse, puisque voilà, l'HAS il distingue des éléments un peu principaux et des éléments secondaires. Donc ensuite, il faut, on va dire, ils évaluent une espèce de combinatoire entre ces différents éléments pour évaluer la gravité. Mais donc des éléments de tristesse, voilà, une perte d'envie, d'élan vital, associé à d'autres symptômes qui peuvent être aussi bien des troubles du sommeil, des troubles alimentaires, bon, des idées noires aussi, puisqu'il y a aussi ces éléments en lien avec des idées suicidaires. Bon, il y a tout un tas de symptômes qui peuvent rentrer en ligne. Je sais pas si ma collègue a aussi d'autres éléments en tête.
Mais... Oui, il y a aussi souvent, vraiment quand on est dans un épisode dépressif caractérisé, un ralentissement cognitif, des difficultés à se concentrer, à prendre des décisions. Et aussi parce que c'est lié à une dévalorisation, c'est un moment de remise en question et de perte d'estime de soi aussi qui n'aide pas à se positionner.
Alors, je vais revenir un peu sur ce que vous avez dit. Vous avez parlé de dépression caractérisée. Moi, j'ai entendu d'autres types de dépressions. On a des dépressions qui sont agressives, chroniques. Donc du coup caractérisée et joyeuse, est-ce que vous pouvez nous en dire plus et s'il en existe d'autres, de donner des exemples?
Bah alors, a priori, il y a beaucoup de sortes de dépression, en tout cas d'éléments. Parce que la dépression en soi, on peut la retrouver dans plein de pathologies. En tout cas, les éléments dépressifs peuvent être retrouvés dans différentes pathologies. Elle peut se manifester de façon différente en fonction des personnes. Donc voilà, on l'avait évoqué aussi. Des fois, on parle de dépressions souriantes. Bon, il y a des types de dépressions qui sont masquées, d'autres qui sont plus franches. Bon, ça c'est variable aussi en fonction de l'environnement de la personne, du caractère de la personne, de l'âge aussi. Donc elle se manifeste différemment. Et aussi s'il y a des comorbidités, c'est-à-dire si elle est associée à d'autres symptômes ou si ça s'inscrit dans d'autres types de pathologies. Si on a des choses associées avec des troubles de l'humeur ou si on a des éléments traumatiques, enfin bon, et ça peut s'inscrire et s'associer à d'autres types de troubles. Donc elle peut prendre plusieurs aspects et donc c'est assez variable. Donc c'est vrai que c'est pour ça qu'une définition très précise n'est pas toujours parlante, puisqu'on peut ne pas se reconnaître forcément dans la description classique. Je pense que la vraie difficulté après, c'est d'évaluer l'ampleur et l'impact sur la vie quotidienne, et c'est ça vraiment l'élément, puisque ce qu'on disait tout à l'heure, ça peut faire tout à fait partie d'une période de vie, de quelque chose dans le développement la personne et dans son parcours de vie, sans que ce soit forcément quelque chose de pathologique et qui nécessite un soin. Mais c'est pour ça que les soignants sont là aussi pour essayer d'évaluer, de repérer à quel moment on bascule de quelque chose d'une normalité qu'on peut rencontrer au quotidien et à un moment où on bascule vers quelque chose qui devient très handicapant et difficile à porter pour la personne.
Oui, puis la dépression peut être aussi masquée par des symptômes somatiques et physiques. Et donc, où là aussi, c'est là que c'est important de consulter. On peut avoir l'impression d'avoir des douleurs chroniques, des douleurs dans le corps. Et puis finalement, c'est plutôt la douleur psychique qui s'exprime à travers le corps.
Alors, tout à l'heure, vous avez parlé, par exemple, d'idées noires, etc. Et moi, je voudrais parler, parce que c'est un sujet qui est très, très... Oh, c'est connu, mais j'ai l'impression que c'est très, très tabou. Je pense que la réponse est oui, mais est-ce que la dépression peut amener à des addictions plus facilement?
Oui, parce que... parce que ça a un effet anxiolytique. L'alcool, la drogue, ça permet de diminuer les angoisses qui sont aussi présentes dans la dépression. Il y a aussi dans la dépression beaucoup de fatigue. Bon, ça permet de se couper un petit peu de la réalité qui peut être trop dure à porter. Et donc, on est plus sujet aux addictions quand on est aux prises avec la dépression que sans.
Oui. notamment, effectivement, on parlait d'addiction, de se couper. Bon, les jeux vidéo, ou en tout cas tout l'univers virtuel peut aussi rentrer dans ce type d'addiction qui permet aussi de se couper, effectivement, et qui va par ailleurs isoler, puisque ces dépendances-là peuvent aussi majorer ensuite le problème, parce que ça crée un isolement, ça crée voilà, tout un tas de difficultés qui viennent s'associer et qui peuvent renforcer ensuite les troubles ou en tout cas les symptômes présents.
Très bien. Est-ce que là, je vais faire un petit lien avec la chronique qu'on a entendue juste avant, avec les chiffres. Est-ce que, depuis ces dernières années, vous remarquez une augmentation de cas dépressifs chez les jeunes?
C'est toujours un peu difficile de répondre à cette question. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a plus de jeunes qui viennent consulter et donc il y a plus de visibilité sur, voilà, sur les troubles ou est-ce qu'effectivement, dans la population, aujourd'hui, il y a plus de personnes qui souffrent de dépression? Une chose est certaine, et les chiffres ont l'air de dire ça, que le Covid a vraiment eu un effet, surtout sur les jeunes, avec un isolement qui a été difficile à vivre. Et après, le retour à la sociabilisation a été compliqué aussi. Et certainement que ça a contribué à mettre un peu en exergue les difficultés.
Oui, c'est vrai. Sur les chiffres, bon, alors effectivement, il faut avoir aussi les chiffres qui permettent de comparer avant la crise sanitaire et après la crise sanitaire. Mais c'est vrai que notamment le baromètre de santé de Santé publique France, en utilisant la même méthodologie en 2017 et en 2021, ont quand même constaté que, notamment sur les 18-24 ans, il y a eu une augmentation, en tout cas de la déclaration des gens de sentiments dépressifs, qui a énormément augmenté. Ces chiffres-là, en tout cas, sont là. Alors même si c'est sur une partie de la population que ça a été évalué, parce qu'il parle d'une hausse de près de 80% par rapport à 2017, dans le fait d'avoir déclaré avoir ressenti des épisodes dépressifs. Et il a été aussi montré que certaines tranches de la population, d'âge, mais aussi de position ou sociale ou familiale, donc les personnes plus isolées, enfin, ont été bien plus impactées par la crise sanitaire que d'autres tranches de la population.
Très bien, merci à vous. Tout de suite, nous allons écouter le morceau « L'enfer » de Stromae, qui parle justement de sa période dépressive. Je vous laisse l'écouter tout de suite.
Je suis pas tout seul à être tout seul, ça fait déjà ça de moins dans la tête. Et si je comptais combien on est? Beaucoup, tout ce à quoi j'ai déjà pensé, dire que plein d'autres y ont déjà pensé, mais malgré tout, je me sens tout seul. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Est-ce qu'il y a que moi qui ai la télé et la chaîne culpabilité? Mais faut bien se changer les idées, pas trop quand même, sinon ça repart vite dans la tête. Et c'est trop tard pour que ça s'arrête, c'est là que j'aimerais tout oublier. Du coup, j'ai parfois eu des pensées suicidaires, j'en suis peu fier. On croit parfois que c'est la seule manière de les faire taire, ces pensées qui me font vivre un enfer, ces pensées qui me font vivre un enfer. Réfléchis, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi. Tu sais, j'ai mûrement réfléchi, et je sais vraiment pas quoi faire de toi. Justement, réfléchir, c'est bien le problème avec toi.
Vous venez d'écouter L'Enfer de Stromae, du coup, comme je l'avais dit, qui parle de cette période qu'il a vécue avec des signes dépressifs. Du coup, je voudrais poser une question, c'est comment on peut agir avec une personne qui souffre de dépression? Parce que, par exemple, je sais que pour les personnes qui ont des TCA, on peut, par exemple, ne pas parler de leur physique, ça les aide. Donc, est-ce que... Comment on peut agir avec une personne et comment on peut éviter d'aborder ce sujet et d'être un peu dans une situation un peu gênante?
Pour que les personnes viennent consulter, il faut qu'il y ait quand même déjà une reconnaissance de la personne de difficulté et que la personne veuille s'adresser aux soins et vienne rencontrer quelqu'un. Bon, en tout cas, nous, dans le cadre du CMP, lorsqu'il y a ce type d'éléments repérés, alors qui peuvent être associés à d'autres difficultés, hein. On ne prend pas forcément le symptôme ou les difficultés seul. On prend la personne dans son ensemble et voilà, elle vient déposer sa parole. Nous, on est là pour écouter, pour accompagner, pour essayer de comprendre. En tout cas, du côté de la dépression, là aussi, les recommandations du côté de l'HAS est plutôt que sur une première intention, on dirige vers des psychothérapies. C'est-à-dire que la question du traitement n'est plus une priorité. C'est-à-dire que la première action n'est pas de médiquer pour un problème dépressif immédiatement, mais d'aller en première intention vers une psychothérapie et dans un deuxième temps, si l'accompagnement par la psychothérapie ne donne pas de résultats ou si on est face à des choses plus complexes, on peut aller vers une mise en place de traitement, donc une rencontre avec un médecin qui sera associé à la psychothérapie. Mais en tout cas, la mise en place d'un traitement n'est pas la première intention préconisée en termes d'efficacité sur la prise en charge des dépressions.
Et puis dans l'idée de la psychothérapie, c'est qu'on avance ensemble avec le patient. Si le patient n'est pas prêt à parler de certains sujets, on n'y va pas forcément. Et donc voilà, on respecte aussi le temps de chacun. Et de toute manière, à un moment, les problèmes seront abordés. Voilà, et encore une fois, ce n'est pas forcément les symptômes de base qui amèneraient la personne à consulter qui sont au cœur des premiers entretiens. En tout cas, il y a quand même tout un temps d'adaptation de l'un à l'autre, voilà, de s'apprivoiser un petit peu avant d'accepter aussi de parler des choses, effectivement, comme vous dites, qui peuvent être délicates à aborder.
Très bien. Vous avez parlé de psychothérapie. Est-ce qu'il y a plusieurs types de psychothérapie selon, par exemple, si on veut parler de trauma, etc. Est-ce qu'il y a plusieurs, du coup, types ?
Oui, il y a plusieurs courants de ce point de vue-là. Alors, on a des thérapies. Nous, quand on parle de psychothérapie, on pense psychothérapie de soutien, c'est un accompagnement. Derrière ça, il y a des courants ou des théories qui peuvent être différentes. Il y a des prises en charge en thérapie familiale, par exemple, qui existent. Il y a des thérapies plus comportementales, donc les thérapies cognitives et comportementales qui sont ici une autre approche. Bon, je pense que par rapport à ces différentes approches, parce qu'il y a aussi la psychanalyse, évidemment, par rapport à ces différentes approches, il est, je pense, important aussi de se dire que bon, chaque personne peut y trouver quelque chose en fonction de sa propre personnalité, de son fonctionnement et un type de thérapie ou d'accompagnement ne convient pas forcément à une autre personne. Donc il faut aussi, je pense, se dire que peut-être que, voilà, au-delà de la question d'efficacité, puisqu'il peut y avoir des débats autour de ces questions-là, ce qui est important, c'est aussi, comme disait ma collègue, la question de la rencontre. Au-delà de la question même de la théorie qu'il y a derrière et du type de thérapie, c'est la rencontre avec une personne, c'est l'écoute que va proposer la personne, voilà, c'est la dynamique de travail et de réflexion qui va être associée, qui semble être quand même au cœur de l'efficacité d'une prise en charge. Donc oui, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs types de thérapies, mais j'ai envie de dire, chacun aussi peut y trouver son intérêt et avoir des affinités avec certaines thérapies plus qu'avec d'autres. Et donc ça, c'est aussi dans la rencontre qu'on peut découvrir ça.
Très bien. Est-ce que vous, en tant que psychologue, vous pouvez nous donner des conseils pour avoir peut-être un équilibre de notre santé mentale, de ne pas faire en sorte qu'elle descende de trop
C'est un peu la question piège. On ne se précipite pas pour répondre. C'est complexe comme question. C'est tellement vague. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une réponse et une recette pour le bien-être ou l'équilibre. Je pense que chacun doit se construire son équilibre, trouver ses solutions, parce qu'il n'y a pas une solution. En tout cas, nous, notre positionnement et notre travail, il est d'accompagner la personne à trouver ses propres solutions, trouver son propre équilibre. Voilà, il n'y a pas de bonne nature ou de bon fonctionnement ou de bonne attitude. Voilà, tout est dans une espèce de dynamique et d'un équilibre à trouver. Chacun trouve ses solutions. Les solutions de certains ne conviennent pas aux autres. Ce qui est important, c'est que chacun se trouve sa solution, son fonctionnement, et que celui-ci soit adapté à ce qu'il est et à ce qu'il vit. Donc donner une recette universelle, ça ne pourrait pas fonctionner, puisque ça ne fonctionnerait pas pour plusieurs personnes, mais pour une seule.
Oui, et parce que tout le monde n'est pas confronté aux mêmes difficultés, comme on disait, la période de l'adolescence est une période quand même particulièrement émotionnellement très active. Il y a un émoussement émotionnel, c'est-à-dire que tout prend aussi beaucoup de proportions. C'est aussi cette période où on se sépare un peu de nos parents, donc il y a quand même un sentiment de solitude qui apparaît. Alors moi, j'aurais tendance à dire que du coup, ce qui est important, c'est de peut-être de ne pas s'enfermer, justement. L'isolement, la solitude, ça risque quand même de d'émousser un petit peu le sentiment, les éléments dépressifs. Là, c'est là aussi où nous, on intervient. Alors c'est vrai que du coup, il faut pouvoir faire le pas de venir vers les soins. Il faut pouvoir avoir ce courage-là de faire le premier pas et d'aller vers quelqu'un qui va nous permettre de justement de se sentir un petit peu moins seul, d'avoir une oreille et qui permet de passer ce cap-là qui est quand même particulièrement difficile, mais de pas le faire seul. Bon, moi, j'aurais tendance à dire que ouais, c'est peut-être de ne pas rester seul, en tout cas, et de trouver quelqu'un. Alors, c'est pas forcément des professionnels de soins, mais ouais, ne pas rester seul.
Très bien, merci. J'ai une question à vous poser, et ça vient au fait que j'ai eu l'idée de faire cette émission. C'est qu'un jour, je suis tombée sur une vidéo d'une criminologue qui s'appelle Sonia Lou, qui fait des vidéos sur le true crime. Et donc, elle a fait de la psychologie et de la criminologie. Et elle avait poussé ce qu'on pourrait appeler un petit coup de gueule sur le fait qu'il n'y avait pas cette prévention sur le suicide. elle trouvait qu'il n'y en avait pas assez, qu'il y avait encore de nombreuses personnes qui sautaient la vie aujourd'hui. Et dans sa vidéo, elle disait « mais on devrait faire des préventions comme la prévention routière, sauver des vies en respectant bien le code de la route. Est-ce que, du coup, pour vous, une prévention au suicide, c'est nécessaire ?»
Ça peut toujours être nécessaire, oui, effectivement. En tout cas, d'être sensible, alors, si on reste avec les adolescents, d'être particulièrement sensible si on voit un jeune qui se renferme, qui se replie sur soi, qui arrête de faire des choses qu'il aimait faire auparavant. Il y a des choses qui peuvent quand même venir un petit peu alerter. Et effectivement, si jamais il y avait... plus de communication sur à quel moment est-ce qu'il faut s'inquiéter. Des fois, on dit, si jamais le jeune, à partir du moment où il a parlé qu'il voulait se suicider, du coup, ça veut dire que c'est peut-être pas forcément... une fois qu'il l'a dit, du coup, c'est moins grave. Ça veut dire que c'est pas forcément vrai. Peut-être que ça, c'est une idée reçue qu'il faut battre un petit peu. C'est pas parce qu'on l'a dit qu'on va pas le faire. En tout cas, ça reste un appel à l'aide qu'il faut prendre vraiment au sérieux et qu'il faut prendre en compte. Effectivement, si c'était moins tabou, peut-être que ça permettrait de prévenir un petit peu plus.
Oui, peut-être aussi préciser que le risque suicidaire n'est pas forcément toujours associé à la question de la dépression. Il peut y avoir aussi des risques suicidaires en dehors de la question de la dépression, avec notamment des événements de vie difficiles, à savoir la perte d'un proche. On retrouve souvent aussi des conflits familiaux importants, notamment pour les adolescents. La perte de ce soutien-là, ou en tout cas les conflits dans le contexte familial, peut aussi être associé à ces questions suicidaires. Au niveau amical aussi, au niveau amoureux, il peut y avoir des événements de vie un peu soudains qui peuvent être associés à des phases de risque au niveau suicidaire, sans qu'il y ait forcément de dépression installée, établie, reconnue. En termes de lisibilité, c'est vrai que on ne peut pas toujours non plus s'appuyer que sur les éléments dépressifs pour prédire un risque suicidaire, sachant que prédire aussi du côté suicidaire, c'est pas toujours une chose évidente, et même les professionnels ont des difficultés à ce que ce soit suffisamment lisible de ce côté-là et à anticiper ce type de risque.
Alors, ce sera une des dernières questions sur le suicide. Est-ce qu'il y a une période, un genre qui revient le plus souvent ? Est-ce que, par exemple, c'est plus les hommes qui réussissent leur TS ? Est-ce que c'est à des périodes dans l'année ?
Alors, la question du sexe, peut-être sur les modes opératoires, ça aura possiblement eu...
Je crois que les femmes font plus de tentatives de suicide et qu'elles sont plus souvent réussies chez les hommes.
Oui, parce que je pense qu'il y a une question aussi de mode opératoire ou des choses peut-être un peu plus violentes et plus directes. Il faudrait revoir les chiffres, mais cette question du suicide sur les personnes qui pourraient être... je pense qu'il y a aussi effectivement ça, c'est ces périodes de vie et ces moments de fragilité qui sont à repérer. Alors du coup, les personnes fragiles ou qui sont ou dans leur personnalité ou dans leur lien aux autres, les personnes qui se sentent fragiles et qui sont fragilisées par des événements de vie vont forcément être un peu plus à risque pour ce genre d'éléments. Il faut être vigilant à ça, aux périodes de vie, c'est-à-dire que c'est pas forcément qu'une personnalité ou une structuration ou un état de fait, ça peut être aussi une période de vie où les personnes sont plus sensibles. Donc il faut être vigilant à des éléments éventuellement déclencheurs.
Et après, il y a des dépressions qui s'appellent les dépressions saisonnières. Et donc du coup, effectivement, il y a des moments de l'année, il va y avoir une récurrence plus à certains moments de l'année qu'à d'autres. Donc est-ce qu'à ce moment-là, il y a plus de risques suicidaires probablement aussi. Après, je ne suis pas sûre que dans les chiffres, ce soit tellement établi qu'il y ait vraiment une saison où il y a plus de suicides. Mais en tout cas, la dépression saisonnière, ça existe.
Alors, je vais vous poser cette dernière question. Si un jeune a le besoin de venir parler, de s'exprimer, où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Dans quelle structure, à quels horaires et dans quel lieu ?
Alors, donc nous sommes au CMP Enfants et Adolescents, au 66 rue Jules Ferry à Pont-Audemer. Je vous donne tout de suite le numéro de téléphone au 02 32 20 60 00. Il faut une autorisation parentale, il faut que les parents vous accompagnent et soient d'accord sur, en tout cas qu'ils soient d'accord pour que vous soyez reçus au CMP. On peut nous appeler, on peut venir sur place pour demander à être reçu. D'une manière générale, ce qui se passe, c'est que une fois que vous avez présenté, vous avez donné vos coordonnées, vous êtes reçu par une infirmière, une éducatrice, et à la suite de ça, à la suite d'une évaluation, va être décidé vers quel professionnel est-ce que ce serait le plus pertinent de continuer. En tout cas, il ne faut surtout pas hésiter à venir, même si au début vous avez un doute avec vos parents ou quoi. Enfin voilà, il faut pouvoir venir et en discuter. Les horaires d'ouverture, donc on est ouvert du lundi au vendredi, de 9h à, selon les professionnels, à 18h. voilà, on n'est pas forcément toujours facilement joignable, donc il ne faut pas hésiter à essayer d'appeler plusieurs fois.
Très bien, je vous remercie de m'avoir accompagné pour cette émission. Et à vous, chers auditeurs, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de nous avoir suivis. Je tiens à vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que des numéros et des structures existent comme le CMP pour vous venir en aide, notamment si vous avez des envies suicidaires. Utilisez le 3114 qui est le numéro national de prévention du suicide. Bonne journée à vous.
Éclat d'âme. Le magazine des handicaps, de l'inclusion et de la santé mentale.
Jacadi. C'est aussi la plateforme en ligne jacadi.org. Retrouvez toutes les productions des élèves engagés dans l'atelier média. Journal lycéen, exposition numérique, double page avec l'éveil de Pont-Audemer et bien sûr, toutes les émissions de radio. À bientôt sur jacadi.org.